Afternoon, everybody. No!
We'd like the Black Legion to stop this farmer strike on behalf of American prosperity. And in return, we're offering substantial support for as long as our business interests and your moral crusade both continue to happily coincide.
God damn it, Chantal! What is wrong with you?
What do you think banks do with money? Put it in other banks? No, they do what everyone with money does. They use it to rout and pillage and plunder because that is the American way.
So Alex Ciambrulli claims that he got a hand job from Sarah Pearson.
Hold on. I can't talk to you about that.
Murder board. Murder board. Murder. No chanting.
You're slut shaming me. Shame on you.
Girl, can you come down off the cross? We need the wood.
Happen Leonard! Come out and play!
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition de Série Folie. Cette émission qui vous parle de séries télévisées, 22e épisode de la saison 6, avec Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Bienvenue sur les antennes. On va revoir avec toi, comme chaque début d'émission Série Folie, quelques séries que tu as pu grignoter pour nous ces derniers temps.
Ben oui, j'ai eu un petit peu le temps, hein, vu qu'on a eu une pause pour les deux semaines de congé de Pâques.
Oui, on va le dire comme ça.
Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de choses. Tout ne m'a pas plu, évidemment. Et tu sais que je ne parle ici que de ce qui m'a plu. Donc, je commence tout de suite avec la première série qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, du peu d'informations que j'en ai recueillies, parce que tu sais que j'aime bien découvrir à l'aveugle, mais après coup, j'ai quand même été jeter un œil sur la page IMDb, tout simplement. Il s'agirait d'une anthologie, en tout cas l'ambition serait de faire de cette série une anthologie qui nous présenterait à chaque saison un crime différent et qui s'appelle The Act et qui nous est proposé par Hulu. Alors, pourquoi ça m'a plu ? Nous entrons tout de suite dans la vie d'une toute petite famille monoparentale. On a juste la maman et la jeune fille dans cette famille qui vient apparemment d'intégrer une toute nouvelle maison qui a été construite entièrement pour eux et pour elles d'ailleurs et probablement sur mesure en fonction de leurs besoins. Pourquoi ? Parce que la petite est très très malade. En tout cas, c'est l'apparence qu'elle donne, hein, vu que elle a aucun cheveu, elle est en chaise roulante, elle porte des très grosses lunettes et elle parle avec une toute petite voix. Enfin, on se dit que elle doit être vraiment très malade et donc un organisme de charité leur a construit une maison et puis voilà, elle s'installe dans ce nouveau quartier. Mais en même temps, nous savons qu'il va se passer un drame vu que en introduction de cette famille, nous avons d'abord un coup de fil donné à la police par la voisine, et puis la voisine qui rentre dans la maison totalement à l'abandon. Sur la page Facebook de la mère a été posté des messages inquiétants, et donc la voisine a été voir sur place avant d'appeler la police. Enfin, il se passe quelque chose de bizarre. Elle semble avoir été agressée. Peut-être ont-elles disparu. Enfin, le mystère reste à éclaircir, mais toujours est-il que ça sent pas la happy end, hein, cette histoire-là. En même temps, étant donné que l'objectif, comme je l'ai dit, était de faire une anthologie sur des crimes, on s'en doutait un petit peu. Donc voilà, ça c'est vraiment l'introduction, les premières minutes qui nous permettent de voir ça. Ce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié dans cette série, ce sont les actrices. C'est seulement en me refaisant après le film que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de personnages masculins dans cette histoire, mais à aucun moment tu te dis « Ah tiens, c'est une série pour femmes », tu sais, comme souvent hein, quand on a des séries avec... une majorité au casting de personnages féminins, ben, on est assez vite porté à reléguer ça du côté des séries pour femmes, hein, de manière un petit peu méprisante peut-être même parfois. Ici, je ne l'avais pas remarqué, c'est seulement après que je me suis dit « Ah ben oui, en fait... on voit quasiment pas d'hommes vu qu'il s'agit d'une mère, sa petite fille et puis la voisine et qui elle aussi a une fille un peu plus âgée. Enfin, donc on a un casting quasiment uniquement féminin avec des très très bonnes actrices puisqu'on a Patricia Arquette qui est vraiment très très inquiétante dans le rôle de la maman de cette petite fille handicapée qui à la fois est toute mielleuse et qui fait un peu effet de mère courage dans un premier temps vu que elle est seule avec une enfant qui requiert une attention permanente. Et en même temps, dès que la porte est fermée et que on la voit interagir avec sa fille, on se rend compte que les choses sont peut-être pas aussi belles et simples que ça. On va vite se rendre compte que peut-être que derrière cette belle façade se cache une réalité bien moins avouable qui expliquerait d'ailleurs pourquoi, on le comprend très vite aussi dans l'introduction de la série, elle semble déménager relativement régulièrement. Ces deux personnes-là, elles voyagent pour échapper à des voisins malfaisants, on comprend pas très bien pourquoi, mais enfin bon, bref. Donc Patricia Arquette est vraiment impressionnante là-dedans, de vérité, vraiment, elle campe super bien ce personnage-là. L'actrice qui joue la petite fille malade est aussi remarquable, extrêmement convaincante, mais je dois t'avouer que je ne la connais pas, en tout cas, si je la connais, je ne l'ai pas reconnue, hein, parce que elle est arrangée quand même pour le rôle, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne me souviens plus non plus de l'actrice qui joue la voisine, mais qui est aussi un visage connu, que les amateurs de séries reconnaîtront, enfin, et sa fille aussi d'ailleurs. Donc on a vraiment un casting... familier pour ceux qui aiment les séries télévisées, d'excellentes actrices qui jouent des rôles quand même assez puissants avec des enjeux relationnels très très forts et même d'existence. Hein. Dès le premier épisode, on est vraiment happé par cette histoire et on a envie d'en savoir plus. Quoi. Donc voilà, ça s'appelle The Act. Je n'ai pas encore vu jusqu'au bout, hein, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en retournera au final. Mais ce que je peux dire, c'est que l'introduction est vraiment impressionnante et que c'est le genre de série qui te marque quand même assez profondément, avec, en plus, moi j'estime que c'est un petit plus, ce casting quasiment 100% féminin qui change un petit peu, ça fait plaisir à voir, voilà.
D'accord, petit coup de cœur du moment, voir où ça nous mène.
Exactement. Je continue avec une deuxième série, cette fois-ci beaucoup plus légère, même si, entre guillemets, on a aussi un personnage qui a un corps qui échappe un petit peu à son contrôle. Ça s'appelle Spécial. C'est sur Netflix et c'est une petite comédie de 8 épisodes, des épisodes extrêmement courts, ils font même pas 20 minutes, hein. À chaque fois c'est 15-17 minutes, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment extrêmement court. Le personnage principal donc est spécial, pourquoi ? Parce que il a, alors je ne me souviens plus exactement, c'est une paralysie cérébrale ou quelque chose comme ça, enfin, mais sous un aspect très léger qui fait que en fait il boite un petit peu et il a un peu de mal à manipuler les objets du quotidien, quoi, faire ses lacets, fermer les boutons de sa chemise ou des choses comme ça, c'est assez difficile pour lui. Et puis, mais ça se voit quand il marche dans la rue que il boite. La seule chose, c'est que il a été renversé par une voiture quelques mois auparavant. Et donc, il va intégrer un travail en tant que stagiaire et il va faire croire que ce boitement, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui.
Ce boitement viendrait de son accident de travail. Il essaie donc de cacher un petit peu la cause véritable de ces difficultés. C'est un travail dans le journalisme sur la toile, et donc il va être assez rapidement invité à écrire un article sur cette expérience, sur son accident qui a causé ce problème physique, ce handicap, et il va comme ça vivre plus ou moins caché, tout en, c'est une sorte de deuxième placard dans lequel il s'enferme, vu que il avait déjà connu précédemment un premier placard qui était celui de l'homosexualité, de laquelle il était sorti. La série ne parle pas du tout d'un coming out, mais on sent à quel point c'est difficile d'assumer qui on est, que ce soit au niveau de sa sexualité ou également assumer pleinement les difficultés au niveau de son handicap qu'on peut connaître, quoi. Et donc, on va suivre simplement la vie et l'émancipation professionnelle, amoureuse, familiale de ce personnage principal à travers ses relations avec sa mère. Lui aussi, il a vécu quasiment uniquement avec sa mère pendant toute son enfance, donc c'est une relation assez fusionnelle dont il va essayer de se sortir, mais évidemment, ça se fait jamais sans causer quelques frictions et quelques douleurs, hein. Et ça va lui permettre de rencontrer des nouveaux amis, etc., etc. J'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est... On a souvent peur, quand on est valide et qu'on est face à un sujet comme ça, d'être mal à l'aise ou d'être dans le pathos ou de pas d'être un peu pris en otage d'une sorte de chantage affectif où il faudrait aimer parce que quand même c'est malheureux d'être handicapé, tu vois, un petit peu le truc. Mais à mon avis, c'est uniquement dans notre tête que ça se passe, hein, et le fait est que c'est là. Tu lances l'épisode, moi je le fais sans me renseigner, donc forcément je rentre à l'aveugle là-dedans. Ce qui a peut-être facilité le fait que j'aille voir, alors que peut-être d'autres n'ont même pas eu envie d'aller voir. Et c'est drôle, c'est très bien joué également par chacun des personnages qui sont là. C'est très attachant, chaque personnage est vraiment attachant. Et il y a une vraie évolution, alors que c'est 8 tout petits épisodes, mais il y a une vraie évolution, il y a de vraies petites histoires, ce sont des petites capsules comme ça, mais qui chacune tiennent vraiment la route toute seule. Et donc, je suis tombée sous le charme de cette petite série qui, j'imagine, reviendra pour une deuxième saison, hein. Donc, c'est pas comme si on en avait fini avec... cette histoire-là, mais vraiment, ça valait la peine. Et puis, ça a aussi l'intérêt de nous présenter des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ici, on a un personnage donc qui est à la fois porteur de handicap, mais en même temps qui ne se résume absolument pas à ça. C'est pas du tout ça qui va conditionner l'ensemble de ce qui lui arrive. Il y a aussi sa relation avec sa mère, il y a aussi la nouvelle amitié qu'il va lier avec une collègue au travail, il y a aussi son homosexualité et son envie de rencontrer des gens, etc. Et donc tout ça permet véritablement d'en faire un vrai personnage à part entière et pas uniquement c'est le personnage handicapé qui permet de se dire on a notre quota de série avec des personnages handicapés, quoi. C'est pas du tout ça, et voilà, j'ai trouvé que chaque épisode était très très plaisant à regarder.
Bien. Bon. La suite, ça va être une série un peu plus ancienne.
Exactement, comme d'habitude, même si je t'avouerai que des séries anciennes, des retours ou bien des fins de séries dont j'aimerais pouvoir parler, il y en a plein. Mais bon, je me limite. Je vais juste parler de Santa Clarita Diet, cette émission-ci. Pourquoi ? Parce que de 1, il y a la saison 3 qui est apparue sur Netflix il y a peu de temps et que j'ai... pris le temps de déguster épisode après épisode. Il m'en reste un, pour tout te dire. J'ai pas encore tout regardé parce que je sais très bien que c'est une série qui se regarde super vite, et puis une fois qu'on a tout vu, on est tout frustré de devoir attendre un an pour voir la suite. Et puis je risque d'être encore plus frustré puisqu'il y a des rumeurs persistantes disant que ça pourrait être la dernière saison. Ça n'a pas encore été confirmé officiellement, apparemment, mais quand même, il y a des risques. Et donc, ça me fait très peur. J'ai pas encore vu le dernier épisode de la saison 3, donc je sais pas si ça s'arrête sur un vrai suspense qui exigerait absolument une suite ou pas. Mais au minimum, même si ça n'était pas le cas, même si ça se clôturait de manière plus ou moins propre, pour moi, ce serait vraiment, vraiment une mauvaise nouvelle, quoi. C'est une série qui ne paie pas de mine, mais devant laquelle je me suis toujours beaucoup amusée et dont je ne comprendrais absolument pas qu'elle s'arrête comme ça, alors qu'elle a le potentiel d'encore continuer sans aucun problème, au moins deux saisons, j'imagine, quoi. Donc, j'espère que ça n'est qu'une rumeur et que ça va être démenti assez rapidement. Si ça n'était pas le cas, je voudrais quand même... insister sur le fait que c'est vraiment rafraîchissant de voir des personnages tels que ceux que l'on rencontre dans Santa Clarita Diet. C'est vraiment une manière de nous représenter, de présenter la comédie, de présenter une histoire de couple et même de nous présenter une histoire de zombies aussi, hein. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent dans cette série avec des personnages tels qu'on les voit assez peu ailleurs dans les séries, je trouve. À la fois extrêmement léger, tu vois, il y a rien de... On se casse pas extrêmement la tête, on va pas commencer à être... à en rajouter des tonnes, que ce soit dans le sentimental ou dans la souffrance ou même dans l'envie d'être drôle ou quoi que ce soit. Non, tout ça est très léger tout le temps. Je trouve que la relation qu'il y a entre la fille de la famille et puis leur voisin est aussi vraiment agréable à suivre. Il y a une sorte de petit de petits suspense, will they, won't they, hein, est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas, mais en même temps c'est pas ça le principal, parce que ce sont deux personnages qui existent en tant que tels, parce qu'ils ont une vraie belle amitié entre eux et qui n'ont pas besoin de former un couple pour que cette amitié fonctionne. Enfin, c'est pas du tout sur le désir ou sur la possibilité de former un couple, quelque chose que tout ça se construit. Je trouve que le couple qui est formé par les deux personnages principaux aussi est assez beau dans la simplicité avec laquelle ils fonctionnent ensemble, sans véritablement faire de l'amour et de la vie de couple quelque chose de pesant, quelque chose dont il faudrait faire une problématique. Enfin, c'est quelque chose qui coule de source comme ça et ça fait du bien et c'est juste agréable de suivre ces personnages-là et en plus de voir des acteurs qui vraiment s'amuse, quoi. Quand tu regardes cette série, tu vois Timothy Olyphant, tu vois Drew Barrymore, tu les vois en train de s'amuser. Et c'est pas juste pour leur délire à eux, mais ils le partagent avec une telle générosité que nous aussi, on s'amuse avec eux, quoi. Y en a pas tant que ça, des séries comme ça. Et donc, voilà. Je trouverais ça vraiment dommage que... Sans justification réelle, cette série-là s'arrête alors qu'il y en a tant d'autres qui, franchement, vous les annulez quand vous voulez, il n'y a pas de souci.
Voilà, bon, on verra, on croise les doigts avec toi finalement.
Oui.
Puis, on va peut-être envoyer le podcast directement de ce côté-là de l'Atlantique.
Oui, c'est ça, je crois que c'est.
Qu'ils puissent
c'est
ce se rendre compte faire, oui. Enfin de leurs erreurs, quoi, tu vois.
Oui.
Bon. On est d'accord.
Exactement.
Bon, avant d'aborder le sujet du jour, que dirais-tu d'une petite pause musicale ?
C'est ce qu'on va faire, oui, avec Our House de Madness, entendu dans Santa Clarita Diet et aussi dans Deadly Class dernièrement.
Wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Father wears his Sunday best.
Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around.
Our house, in the middle of our street.
Nous poursuivons cette émission Sérifolie avec le sujet du jour abordé par Aurore. Bonsoir Aurore, on t'écoute.
Bon, on va aborder aujourd'hui la question de l'intrigue.
L'intrigue.
La place à accorder à l'intrigue dans les séries. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la conjonction de deux éléments que j'ai vu passer sur le réseau social Twitter. Je ne sais pas si tu connais.
Le réseau social, oui, tes éléments, je ne les connais pas. Non.
dont je vais te parler maintenant, donc, et qui ont éveillé en moi l'envie de me poser la question donc, de la place de l'intrigue. Le premier élément, c'est une vidéo de Brut à propos de Game of Thrones et plus précisément l'obsession des spoilers autour de Game of Thrones. Et donc on avait dans cette vidéo le spécialiste des séries télévisées notamment et de la pop culture Paco Mtilman qui exprimait un petit peu son avis sur cette obsession des spoilers en disant mais finalement si vous craignez de vous faire spoiler quand vous regardez Game of Thrones, soit c'est que vous ne méritez pas Game of Thrones, soit c'est que Game of Thrones ne vous mérite pas, mais en tout cas, c'est que vous n'avez pas totalement compris quel était le rôle d'une série. Et il explique en gros que selon lui, le rôle d'une série principalement, c'est de nous ouvrir sur notre avenir, de nous mettre en relation avec toutes les potentialités qu'on porterait en nous, tout ce qu'on pourrait faire, réaliser, tout ce qui pourrait se passer, et finalement nous indiquer ce qu'on fera dans le reste de notre vie. Donc une série télévisée est censée bouleverser notre vie, en tout cas avoir un impact suffisamment puissant sur notre vie pour nous dire quoi faire, que devenir. Enfin, c'est sa thèse à lui, qui est évidemment une thèse assez forte et qui semble, en tout cas si on le comprend dans un premier temps, mettre relativement à l'écart toutes les questions d'intrigue et de rebondissement hein, de tout ce qui pourrait se passer, puisque finalement mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est au contraire la série dans son ensemble et tout ce qu'elle va pouvoir véhiculer pour nous. Donc ça c'est une chose, sauf que ben, il ne s'arrête pas là malgré tout. Il dit aussi à quel point la question de la surprise que sous-tend l'idée de spoiler et puis la question aussi de qu'est-ce qui va se passer, comment l'intrigue va se dénouer, etc. Tout ça malgré tout, c'est aussi le signe d'une série qui est bien écrite. Finalement, il y a certaines séries, et il prend l'exemple des séries françaises, de l'inspecteur Navarro ou même aussi d'Eric, ce sont des séries, on n'a jamais vu personne se dire « Ah, tu vas me spoiler, surtout ne me raconte pas d'Eric, quoi hein. !» Généralement, ça se passe pas comme ça. Donc, malgré tout, c'est quand même, si une série est spoilable, c'est sans doute le signe d'une certaine qualité d'écriture, au minimum, et aussi de sa parenté avec le... lui, il relie ça à Edgar Allan Poe et le récit policier qui a vraiment créé comme ça l'attente chez le lecteur de savoir quelle était la résolution de l'histoire. Donc voilà, ça c'est du côté donc de la vidéo de Pacôme Tillemans. Enfin, avec Pacôme Tillemans. Et puis, en parallèle, le lendemain, j'ai vu passer également sur le même réseau un article publié sur Slate.fr, me semble-t-il, qui prenait une position vis-à-vis de la sériphilie qui a eu le don de m'hérisser un petit peu, puisque, en gros... l'auteur de cet article défendait l'idée que les séries avec une seule saison, ça c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Enfin, c'était une sorte d'ode aux séries qui se clôturaient vite, qui n'avaient qu'une seule saison. Pourquoi ? Parce que bah, plus une série est longue, plus évidemment le risque est grand que l'intrigue, soit que l'intrigue se perde en cours de route et finissent par ne plus ressembler à rien, soit que l'intrigue nous perde, nous, en cours de route, qu'on perde tout intérêt à ce qui est en train de se passer. Et généralement, les deux sont plus ou moins concomitants. Hein. Si on perd notre intérêt, c'est sans doute que l'intrigue en elle-même a perdu de sa solidité. Donc, le risque est beaucoup plus grand au fur et à mesure que la série avance dans le temps. Et en plus, il exprimait aussi le fait que il y a une certaine frustration, j'imagine, surtout en cette époque de peak TV, où on a tellement de nouveautés en permanence à suivre que pour les sériephiles relativement récents, c'est quasiment impossible de rajouter à ça le rattrapage de séries plus anciennes qu'ils n'auraient pas vues et qu'ils aimeraient bien pouvoir voir pour se faire un minimum de culture sériephile, quoi. C'est vrai que déjà pour moi c'est difficile. Il y a plein de séries que j'ai pas encore eu le temps de voir, des séries plus anciennes ou bien que j'avais pas vu à l'époque où elles étaient sorties. Mais j'imagine que pour les sériephiles qui débarquent, qui ont commencé il y a quelques années seulement, ça doit être carrément insurmontable. Donc voilà, à la fois... ça a un côté un petit peu énervant pour moi d'entendre que les meilleures séries seraient les séries à une seule saison. Et à la fois, je comprends aussi d'où ça vient, même si, mais je crois qu'il y a un moment, il faut aussi lâcher un petit peu l'illusion de pouvoir se faire la culture sériephile exhaustive et parfaite, connaître tout sur tout, etc. C'est une sorte d'objectif irréalisable et à chaque journée qui avance avec son lot de nouveaux épisodes qui sort, nous éloigne toujours davantage de cet objectif-là, quoi. Donc voilà, ça c'est un horizon qui n'est pas atteignable. Je sais même pas s'il a déjà été atteignable un jour, hein, parce que si on pense aux sériephiles qui ont commencé dans les années 80 ou 90, est-ce que pour eux c'était plus facile de se faire une culture sériephile sur les séries des années 50, 60, 70, alors que l'accès à tous ces épisodes était quasiment impossible, puisque bah, beaucoup d'épisodes ont été diffusés comme ça et puis n'étaient absolument pas rendus éternel entre guillemets sur cassette, sur DVD, etc. Enfin, donc je crois que c'est une sorte d'illusion qu'on se fait tous un petit peu en tant que sériphiles, qu'un jour ou que certains d'entre nous ont vraiment une sorte de culture absolue. Mais en fait, c'est un leurre, c'est impossible. La série en tant que telle est vraiment le support par définition, l'art par définition, qui suppose de ne jamais avoir une culture exhaustive. Quoi. Chaque sériphile a sa culture à lui, qui est limitée à ce qu'il a eu l'occasion de voir, qui lui a déjà pris énormément de temps et qui pourtant n'est qu'une portion extrêmement restreinte de ce qui existe et ce qui a existé dans le monde sériel. Donc voilà, ça c'est une chose. Quoi qu'il en soit, donc, entre ces deux questionnements-là qui avaient été soulevés par Paco Mtilman d'un côté et par l'article de Slate de l'autre, mais je me suis dit que se poser la question de la place de l'intrigue dans les séries, c'était quand même une très très bonne question, même si ceux qui ont l'habitude de m'écouter doivent se dire, ben oui, d'office, on sait très bien que pour Aurore, c'est plutôt, elle va plutôt défendre l'idée que l'intrigue, finalement, c'est pas très très important, puisque y a tout le reste qui compte, y a tellement de choses importantes dans les séries, et en plus, admettons-le aussi, ce qui était dit dans l'article, par exemple, quand il dit que une série comme Buffy contre les vampires a duré trop longtemps et que c'était pas, enfin, quand on a vu la fin de Buffy, le dernier épisode de la saison 7, on peut pas dire ça, enfin, on peut décemment pas dire ça. Donc ça, déjà, il partait pas gagnant, le type qui a écrit ça. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer de reprendre les choses de manière un petit peu plus calme, hein. Est-ce que vraiment c'est certain que l'intrigue n'a aucune importance? C'est peut-être un petit peu rapide de dire ça comme ça. Bon, alors, je commence
point
tout de suite.
Point par point, oui.
Voilà. La première chose, généralement, j'ai commencé par là, hein, on distingue à la fois les séries high concept et les séries low concept. Et souvent, si on pense, donc les séries high concept, ce seraient les séries qui, dont le pitch peut être résumé en une phrase. Tu vois, ce sont les séries vraiment qui, pour les scénaristes ou les producteurs de séries, sont super faciles à résumer. Et normalement, c'est censé, en une phrase, pouvoir te donner envie de donner ton argent pour produire la série ou bien éventuellement de regarder la série sur plusieurs saisons, quoi, hein. Donc ça, c'est le principe du high concept. Et le low concept, donc, ce seraient les séries beaucoup plus difficiles, justement, à vendre et à expliquer, à résumer en une phrase. Et donc, on imagine souvent que finalement, les séries high concept reposent beaucoup plus sur l'intrigue que les séries low concept. On verra que c'est peut-être pas si facile que ça. À côté de ça, on a une autre distinction aussi qu'on fait parfois entre les séries qu'on dit plot-driven, donc les séries qui se laissent guider par l'intrigue, et puis les séries character-driven, donc les séries qui se laissent guider par leur personnage, la personnalité de ces différents personnages qui font qu'ils vont là où leur personnalité les mène, quoi. Alors, la première chose, on pourrait avoir tendance à se dire, finalement, high concept, c'est plot driven, et low concept, c'est character driven. En vérité, c'est pas si simple que ça, parce que on peut avoir un mélange. Si je pense par exemple à une série high concept et plot driven, là on pourrait avoir une série comme The Good Place. Dans The Good Place, en effet, la série peut être résumée, enfin. En tout cas, le concept de la série peut être résumé assez rapidement, en tout cas au départ. Mais l'intrigue est tellement compliquée, tellement intriquée, etc., que on peut dire, je crois, que c'est l'intrigue qui mène les personnages là où elle veut, plus que les personnages véritablement qui vont mener l'intrigue. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait fonctionner. On peut aussi avoir, au contraire, une série low concept et character driven, qui serait, par exemple, Seinfeld. Je prends cet exemple-là. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas plus low concept que ça. Le concept, c'est une série sur rien. Alors, tu vas me dire, c'est facilement résumable, hein, une série sur rien, sauf que comme ça veut rien dire,
voilà,
justement, après...
ils en font ce qu'ils veulent.
Voilà, si tu dis, voilà, je veux faire une série sur rien, tu ne sais absolument pas à quoi ressemble Seinfeld. Quoi. Ça ne suffit pas du tout pour savoir à quoi ressemble Seinfeld. Dans le cas de Seinfeld, très clairement, c'est pas... Il n'y a pas du tout une volonté d'aller d'un point A à un point B, se laisser guider par une intrigue extrêmement construite. On a des personnages extrêmement forts dont on connaît très bien le caractère et ce sont ces personnalités-là qui vont nous mener dans les recoins les plus absurdes de la vie new-yorkaise, quoi, hein, absurdes et même souvent totalement impossibles, quoi. Donc ça, c'est une chose, comme je l'ai dit, ça ne va pas forcément toujours ensemble de manière aussi évidente. On peut avoir des séries high concept mais character driven. Par exemple, une série comme Lost, pour moi, serait très clairement une série high concept, puisque on peut résumer, il s'agit de rescapés d'un accident d'avion qui se retrouve sur une île magique ou mystérieuse, hein, c'est assez facilement résumable. En tout cas, on te happe assez rapidement en une phrase sur l'histoire que ça va nous raconter, mais à partir de là, mais c'est vraiment les personnalités, les diverses personnalités de l'île, en tout cas les personnalités principales, qui vont mener la danse. Et très clairement, les scénaristes eux-mêmes ne savaient pas trop où ça allait les mener la plupart du temps, quoi. Donc j'ai l'impression que Game of Thrones pourrait aussi être vu comme une série high concept. Il s'agit d'une série de fantasy moyenâgeuse dans laquelle différents clans se battent pour obtenir le pouvoir, tandis qu'une menace approche. Hein. Voilà, je résumerai ça en une phrase comme ça. Donc, high concept, mais en même temps... une fois que tu as dit ça, c'est pas, enfin, l'intrigue en elle-même, en tout cas, est tellement lente à se mettre en place que c'est plus les personnages et la manière dont petit à petit leur personnalité va les mener sur différents chemins pour finalement qu'ils finissent par se rencontrer vers la fin. C'est clairement plus leur personnalité qui les guide que l'intrigue en tant que telle, quoi. On n'est pas pressé, en tout cas dans au moins les 5 premières saisons de Game of Thrones, on n'est vraiment pas pressé. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'en fait des séries high concept mais character driven, en fait il y en a quand même aussi beaucoup, et puis des low concept mais plot driven, il y en a aussi beaucoup. L'exemple que j'aurais à donner, par exemple, c'est une série comme New York District, Law and Order, tu vois, où finalement, c'est au niveau du concept, c'est pas évident du tout à résumer, parce que si tu contente de dire c'est une série policière, ben c'est un peu court. Et si tu dois expliquer la spécificité de cette série policière-là, qui est aussi une série judiciaire, et que, c'est pas si évident que ça. À mon avis, c'est clairement pas un high concept. Mais par contre, épisode après épisode, ce sont pas vraiment les personnalités des enquêteurs et des procureurs qui font l'histoire. C'est l'intrigue en elle-même et ce qu'elle a raconté qui mène l'histoire. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on peut clairement distinguer tous ces différents cas de figure, en se disant quand même que les séries qui sont character driven seraient des séries qui seraient plus dans l'exploration psychologique et l'exploration des mœurs. Les deux exemples que j'ai donnés, Seinfeld, Lost, Game of Thrones également, j'ai l'impression, sont vraiment plutôt là-dedans, hein, dans cette exploration vraiment de l'âme humaine, ou des habitudes sociales dans le cas de Seinfeld. Et puis les séries plot-driven, elles seraient plutôt des séries qui ont pour but de construire un discours, de construire une réflexion. Les deux exemples que j'ai donnés à nouveau, The Good Place et Law and Order, représente vraiment bien ça, vu que dans un cas, il y a vraiment tout un discours sur la justice qui se met en place épisode après épisode dans Law and Order, et dans The Good Place, il y a tout un discours philosophique sur ce que c'est être quelqu'un de moralement bon qui se met en place aussi grâce à l'intrigue, quoi. Donc voilà, ça c'est la première précision que je pourrais donner. Donc on a tous ces mélanges-là. Il faut aussi se dire que parfois, épisode après épisode, on est plutôt sur du plot-driven. Et pour la saison entière ou la série entière, là, on sera plutôt dans du character-driven. Donc, on peut avoir des mélanges aussi entre les deux. Je pense à une série comme Buffy contre les vampires, par exemple. On a... en tout cas, au minimum pour les premières saisons, chaque épisode a une intrigue très claire où il va falloir arriver à découvrir qui est le méchant de la semaine et en venir à bout. Pour l'ensemble de la série, on a vraiment une évolution qui va se baser davantage sur la personnalité des différents membres du groupe, et donc on peut avoir un mélange des deux. Pour une série comme Gotham, je dirais que c'est à la limite le contraire, même s'il y a toujours moyen de discuter. Je dirais que dans l'épisode, souvent, on va avoir les personnages qui vont évoluer en fonction de leur personnalité, mais en même temps, la série en elle-même, elle a un objectif très clair au niveau de l'intrigue. Il faut arriver à ce que tous les méchants soient mis en place et Batman soit devenu Batman, quoi. Donc il y a un objectif sur le long terme qui est clairement au niveau de l'intrigue, et puis au niveau de la manière dont ça évolue épisode après épisode, on est plus sur la personnalité des méchants comme des gentils, même si les méchants sont plus intéressants. De plus, les personnages concernés restent limités, et la plupart restent souvent des prétextes narratifs. Finalement, même dans les séries qui sont character-driven, seuls les personnages principaux sont vraiment importants et mènent la danse. Tous les autres restent de purs prétextes narratifs, et pour eux, finalement, l'intrigue reste ce qui mène leurs actions, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que toutes ces configurations-là qui existent dans les séries télévisées donnent à chaque fois une place différente à l'intrigue, ça va dépendre d'énormément de choses. La construction de l'histoire va être importante. Est-ce que c'est par exemple une série qui est basée sur un livre? Est-ce que c'est une série qui a été pensée dès le début avec une fin bien précise, etc.? La longueur, évidemment, va être importante, et cette longueur, parfois elle est prévue, parfois elle ne l'est pas. Il y a certaines séries qui prévoient d'emblée d'avoir 4, 5, 6 saisons ou une seule saison, pourquoi pas. Et puis parfois, ben, ça, c'est exactement ce qui avait été prévu. Et puis parfois, les plans changent. Hein. Donc tout ça, ça va énormément influer sur la place de l'intrigue. Tout ça va se reconfigurer au fil du temps, etc. Une série n'a pas toujours besoin d'avoir une fin. En plus, hein, il y a beaucoup de séries qui peuvent continuer indéfiniment. Il y a bah, évidemment Law and Order en est l'exemple principal. Les Simpsons pourraient en être un autre exemple aussi. Une série n'a pas forcément besoin d'avoir une fin. Mais il faut avouer que quand c'est une série high concept, bah, ça exige davantage de gérer ce concept-là. Souvent, ce concept, c'est une manière de nous happer et donc de mettre une sorte de mystère, de petits suspense, de trucs qui nous donnent envie d'aller voir, quoi. Donc il va falloir gérer ce petit truc qui nous a été présenté pour nous appâter. Ce qui signifie pas forcément qu'il va falloir le gérer à travers la fin. Je pense par exemple à une série comme Jane the Virgin. Si on réfléchit bien, Jane the Virgin, c'est clairement un high concept, puisqu'au départ, on a quoi ? On a l'histoire d'une jeune fille vierge qui va être inséminée artificiellement et qui décide de garder le bébé. Bon. Je dirais que c'est plus ou moins comme ça qu'on pourrait présenter l'histoire. Donc c'est du high concept, ça peut être résumé très facilement. Mais en même temps, cette intrigue-là, est-ce qu'elle va rester vierge ? Qu'est-ce qui va se passer avec le bébé, etc. Tout ça va être finalement évacué assez rapidement. Au bout d'une, deux, trois saisons, ce mystère-là est évacué. Et la série continue. C'est pas pour autant que la série doit s'arrêter une fois que l'intrigue a été résolue. Il y a moyen tout à fait de continuer sa vie en ayant d'autres intrigues. Je pense à Crazy Ex-Girlfriend, c'est la même chose. On a le concept de départ, une fille qui part sur un coup de tête pour poursuivre son crush de jeunesse. Ben on en est très loin, 5 saisons plus tard, on est très loin de ce point de départ-là. Ça a été résolu à un moment, d'une certaine manière, et puis on est passé à autre chose. Donc ce high concept, ce petit point de départ doit être résolu à un moment, ça ne veut pas dire forcément que ça doit signifier la fin d'une série. Par contre, ben, tout va dépendre, puisque ça ne signifie pas forcément la fin, tout dépend des attentes que met en place la série. Je donne un exemple, hein. Une série comme Dexter aurait très bien pu gérer les choses différemment et ne pas être aussi frustrante. Ce qui rend Dexter et la fin de Dexter frustrante, c'est qu'elle a mis en place saison après saison certaines attentes. Et ces attentes étaient quand même très très largement portées autour de la question de la loi, de la punition, de comment doit être géré le crime, etc. Et tout ça finalement n'a abouti à rien, quoi. C'est ça qui est vraiment frustrant. Ce problème-là n'a pas été géré correctement. Il y a plein d'attentes qui ont été mises en place et ça n'a pas été géré. Je dirais que Lost, en tout cas pour moi, c'est un petit peu ça aussi. Régulièrement, ils ont remis de l'huile sur le feu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont remis du mystère sur « mais qu'est-ce que c'est que cette île ?» Et puis au final, c'est resté très mystérieux, quoi. Le mystère est resté un mystère, alors qu'ils auraient pu ne pas autant insister en mettant à chaque fois des petits indices de « oula, cette île a une histoire, a des secrets, etc. Enfin, » donc voilà. Par contre, je dirais qu'une série comme Buffy contre les vampires avait un pitch de départ assez précis. Et puis ce pitch de départ a évolué et c'est, comme les attentes construites par la série ont évolué avec elle, et bien finalement, c'est pas du tout sur le même point de départ qu'on en arrive à l'arrivée. Au final, tout ça va finir par aboutir sur une question de qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir qui nous a été mis entre les mains, etc. Alors que c'était peut-être pas la question qui était posée en première saison, où c'était plus bah, comment est-ce qu'on peut continuer à être une fille normale quand on est face à certaines responsabilités. Enfin, c'était assez différent, quoi. Donc tout dépend vraiment de la manière dont la série gère les attentes. L'intrigue et ses rebondissements n'ont de place n'ont dans la série la place que non, l'intrigue et ses rebondissements n'ont la place que la place que la série leur a faite au fil des épisodes. Il y a une construction d'attente, on a parlé il n'y a pas longtemps de la tension narrative, il y a vraiment ça qui se construit au fil des épisodes, une tension narrative, et tout dépend de... Mais est-ce que cette tension est écrite principalement autour de l'intrigue ou pas ? Dans le cas de Game of Thrones, j'ai l'impression quand même que la tension dramatique, la tension narrative est largement, en grande partie quand même construite autour de deux choses. La première, c'est les fameux rebondissements choquants, sanglants qui ont lieu au moins une fois par saison. Hein, toute la notoriété de la série s'est construite en partie là-dessus et en partie aussi sur l'idée qu'on attend une sorte d'hiver qui arrive. Hein, Winter is coming, tout le pitch est un petit peu construit là-dessus aussi. Il y a une marche vers une fin annoncée avec un grand combat épique. Donc, bah, évidemment, l'intrigue importe puisque la série lui a accordé beaucoup d'importance. Voilà. Mais en même temps, Game of Thrones, c'est aussi une série qui s'est construite sur ses personnages, des personnages qui sont quand même longuement déployés au fil de la série. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, ça touche autant de monde. C'est parce que justement, ces personnages ont été on les a beaucoup suivis. On a vraiment le temps de s'attacher à eux, quoi. Donc, si on se contente uniquement de suivre l'intrigue, il y a plein de gens qui vont être frustrés si on arrête de s'intéresser aux personnages de manière aussi proche. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je crois, que la saison précédente, et peut-être on va voir cette saison-ci, frustre autant de gens parce que justement, ça s'accélère énormément. On se base beaucoup plus sur l'intrigue que sur suivre les personnages et leurs spécificités. Et donc, ça perd toute une série de gens qui étaient plus intéressés au développement psychologique, etc. Donc, il y a énormément de frustration qui peut se créer autour de ça. Donc... Est-ce que Game of Thrones est une vraie bonne série au final ? Ben, tout dépend. Si une fois qu'on a atteint le point final, on continue à trouver du plaisir à re-regarder la série, ou bien si on va vite s'en détourner. Et pour ça, la fin va avoir une certaine importance quand même, parce que y a certaines séries, la fin va tellement gâcher rétrospectivement tout le plaisir qu'on aura passé devant les premières saisons que on n'arrivera plus jamais à prendre le même plaisir devant les saisons en question. Moi, je sais très bien que j'ai adoré vraiment les premières saisons de Dexter. J'ai même été assez loin, je crois, jusqu'à la saison 5. J'ai adoré, c'était ma série préférée. Mais là, maintenant... Après avoir vu la fin, plus jamais j'ai été revoir, plus jamais j'aurais envie d'aller voir cette série. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé, la fin a vraiment gâché à tout jamais toute l'attente qui a été construite par ces saisons en question, justement. Et le fait de savoir que toutes ces attentes ne seront jamais, ne seront jamais satisfaites, c'est... ça va tout gâcher, mais c'est pas du tout une question de rebondissement, c'est pas du tout l'intrigue en tant que telle et ce qui se passe qui donne de l'importance à la série. C'est plutôt la promesse qui est faite par la série. Est-ce qu'elle est tenue, est-ce qu'elle est pas tenue, ou est-ce qu'elle est gâchée à jamais? Et c'est ça, principalement, la question qu'on va devoir se poser devant cette fin de Game of Thrones.
Voilà. Bon, mais on en est déjà arrivé à la fin.
Ben oui, écoute.
C'est comme ça. On va se quitter en musique, si tu le veux bien.
Oui, on va s'écouter « If I knew you were coming, I would have baked a cake » de Eileen Barton, entendu dans Sex Education.
Merci à toi, Aurore, pour ce beau développement d'idées. À tout bientôt.
À bientôt, oui.
À la semaine prochaine.
Come in. Well, 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 look who's here. I haven't seen you in many a year. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. Baked a cake. Baked a cake. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. How'd you do? How'd you do? How'd you do? Had you dropped me a letter, I'd have hired a band. Grandest band in the land. Had you dropped me a letter, I'd have hired a band and spread the welcome mat for you. Oh, I don't know where you came from, 'cause I don't know where you've been. But it really doesn't matter. Grab a chair and fill your platter and dig, dig, dig right in. If I knew you were coming, I'd have baked a cake, hired a band. Goodness sake, if I knew you were coming, I'd have baked a cake. How'd you do? How'd you do? How'd you do? How'd you do?